السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, chers mères, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité de nous réunir ce soir pour deux événements extrêmement importants. On avait rappelé hier, après la salat al-Isha, mes chers frères, venez nombreux à la masjid Quwwatul Islam de Sainte-Clotilde à 20h pour la salat al-Isha, parce qu'il y aura deux événements importants. Le premier événement, c'est le Khatm al-Qur'an. Nous avons ce soir complété la lecture de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en 23 années. Depuis qu'on a commencé Al-Fatiha jusqu'à ce qu'on ait terminé An-Nas. Et ça, c'est un grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que de donner la possibilité à un musulman et à une jamaat d'écouter l'intégralité de la révélation à travers la salah, d'écouter l'intégralité de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété comme parole haq, comme parole véridique, comme parole mu'jiza, miraculeuse, qui restera jusqu'au jour de Qiyama intact, inchangé dans les cœurs des hommes et dans les livrets, dans les masahif. Donc, bonne nouvelle, Bouchra, bonne nouvelle à tous ces moussallis, toutes ces personnes qui ont été réguliers et fidèles à l'accomplissement de Salat au Tarawih ici, dans toutes les masajid. Car le prophète alayhi salat wa salam avait maintes et maintes fois rappelé que la personne qui fait la salat avec le imam hatta yam salif, qui reste assidu à la prière derrière le imam jusqu'à la fin, Allah Ta'ala lui accorde en récompense la nuit passée en ibad. Ça, c'est la récompense pour celui qui reste ferme, reste patient dans la salat jusqu'à la fin. Même si les raka'at sont longs, même si on a mal aux articulations, même si on a des crampes, même si on a le dos qui fait mal, même si on a mal à la tête, on travaille le lendemain, mais on se dit que non, on fait cette salat, on reste derrière le imam jusqu'à la fin, on écoute jusqu'au dernier verset, on ne rentre pas à la maison, on ne va pas s'allonger, on ne va pas parler avec les amis. Celui qui est resté ferme et patient, le prophète alayhi salatu wasalam dit Kutiba lahu baqiyatu laylati. Allah Azza wa Jalla lui accorde la récompense du reste de la nuit en ibad. Il y a qu'à partir du moment où je quitte la masjid à 9h15 et je rentre chez moi, même si je me réveille à 4h45 juste pour manger le suhur, Allah Azza wa Jal inscrit dans mon livret de compte comme si que j'ai passé cette nuit en ibad. Vous dites que c'est invraisemblable, ça fait un peu trop comme récompense, mais on n'a pas affaire à un être humain, on a affaire à Allah qui est Al-Karim, Allah qui est généreux. Et quand Allah Ta'ala est capable de récompenser un être humain une nuit de ibadah, la nuit du destin, comme si qu'on avait prié Al-Fishar 1000 mois, on comprend que les récompenses qu'Allah Azzawajal accorde à ses serviteurs, c'est vraiment à l'image de la grandeur et de la générosité d'Allah Azzawajal. Donc Allah Azzawajal accepte l'effort de toutes ces personnes et Allah Subhanahu wa Ta'ala accepte le Khatm al-Qur'an. Également, bonne nouvelle à toutes les personnes qui étaient présentes au moment du doua. Dans certaines versions, il est dit que quand on complète la lecture du Coran, il y a 4000 malaïkas, 4000 anges qui sont présents pour dire Amin au doua. Alors, mes chers frères, mes chères mères également, pensez-vous dans le mois de Ramadan, à un moment aussi béni, du premier Ramadan jusqu'au dernier Ramadan, au moment de compléter le Coran et que le imam a lu des doigts et que tout le monde, on était à Allah seul le sait combien on est ce soir, plus de 200-250, on a tous dit Amin, mais au-dessus de nous il y a 4000 malaïka qui disent Amin. Pensez-vous une seconde qu'il y a un doigt qui va passer au travers? Allah Azza wa Jalla est capable d'exaucer et d'accepter l'intégralité de ces doigts, générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et félicitations enfin pour nos jeunes a'imma, les anciens aussi, hein, on n'est pas du reste, mais surtout nos jeunes. La plupart, on était à 6 dans la masjid de Quwwatul Islam pour la salat au Tarawih. Mis à part Fundi, Rachad et moi-même, on a dépassé la trentaine. Les autres a'imma, hein, on citera leur nom, Yamin, on citera Tanaullah, on citera Yassine et on citera Oussama. Hein, ils ont entre 20 et 25 ans. Ils n'ont pas plus de 25 ans. Allah Azza wa Jalla les a choisis pour abriter dans leur cœur le Coran en intégralité. Ça, c'est une preuve du miracle du Coran. Des jeunes qui n'ont pas dépassé 25 ans, ils portent de leur soudour, de leur cœur, de leur poitrine, l'intégralité de la révélation. Et c'est grâce à des gens, c'est grâce à des personnes comme eux, que le Coran reste protégé jusqu'au Qiyam. Et dans le monde entier, à La Réunion, à Maurice, à Madagascar, aux îles Comores, dans tous les, subhanallah, tous les pays, toutes les régions du monde, toutes les zones, que ce soit l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, on trouvera des gens, des jeunes, des moins jeunes, des anciens, des bakoko, tout le monde, qui mémorisent le Coran. Et si on dit à toutes ces personnes, on prend une personne de chaque nationalité, on les met côte à côte, et toi tu commences, Alhamdou, Al-Fatiha, Al-Baqara, etc., etc., on verra que c'est la même lecture, c'est le même Coran, il n'y a pas un Fatha, un Kasra ou un Dhamma qui change, il n'y a pas un Zabar, un Zir, un Pesh qui change, il n'y a pas un Shadda rajouté ou un Sakin qui a été mis, c'est le même Coran depuis qu'il a été révélé sur Al-Nabi alayhi salatu wassalam, depuis qu'il a reçu Iqara jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est la promesse d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la spécificité de notre Ummah. Nous suivons une religion qui est juste, qui est droit et surtout qui est sûre, car elle est protégée par Allah. C'est le seul livre pour lequel Allah Azza wa Jal a pris l'engagement personnel. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun. Pour le Taurat et le Injil, qui ont été également révélés durant le mois de Ramadan, comme le Coran, Allah Ta'ala n'a pas pris l'engagement. Mais pour le Coran, Allah Ta'ala s'est fait la promesse qu'il va protéger le Coran. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam recevait les versets de la part de l'ange Jibril alayhi salam, le prophète s'empressait de répéter les versets. Pourquoi ? De crainte d'oublier. Il avait peur que quand Jibril récitait un long verset et qu'il entamait un autre, parce que parfois c'était quelques lignes, parfois c'était des pages, parfois c'était des chapitres, le prophète craignait d'oublier un passage. Et là, Allah Azza wa Jalla révélé en ce sens que ne t'empresse pas pour répéter, parce que ça, c'est notre garantie que ce Coran qui t'a été révélé restera gravé dans ton cœur. Il n'y a pas un verset qui sera oublié. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a été rassuré. Donc, on demande à Allah Azza wa Jal de récompenser pleinement nos 6 a'immas. Qu'Allah Azza wa Jal renforce le Coran de leur cœur. Qu'Allah Ta'ala nous donne la possibilité de le mettre en pratique. Et qu'Allah illumine notre vie, notre comportement par les éthiques, par les enseignements qu'il y a dans le Coran. Et ce qui est, il y a deux choses symboliques ce soir. La première chose, concernant la première partie de l'intervention, c'est sur le Khatm al-Quran. On a, alhamdulillah, reçu la visite de Qari Abdelrachid Moulan, qui nous a honoré par la présence, sa présence aujourd'hui, ce soir, pour faire le doua de Khatm al-Quran. Et quand j'ai vu son fils Oussama passer le micro à son père, moi, je me suis dit qu'on aurait dû, enfin, pas prendre une photo, mais c'est des images qui sont fortes, symboliques. C'est deux générations, Hufaz al-Quran. C'est deux générations qui protègent le Coran de leur cœur. Et Inch'Allah, la génération, les enfants d'Oussama, les petits-enfants, Inch'Allah, les générations en générations, ils vont se transmettre mutuellement la parole d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ce qui fait la véracité de notre dîn et la force de notre Coran. Et symboliquement, pour nous aussi, hein, que ce soit moi, que ce soit Yamin ou la plupart de ces jeunes, on a tous été élèves de Qari Abdelrachid Moulan. Si je reprenais le Coran que j'avais quand j'avais 7 ans, 8 ans, il y a encore les traces et les dates que Kalissa mettait. Subhanallah, tout ce qu'on peut faire comme action jusqu'à maintenant, ils ont leur part de récompense. Et c'est ça la grandeur de l'islam. C'est ça également l'humilité et le respect. Toujours le respect des anciens. Parce que si on est arrivé là où on est arrivé, celui qui a complété son hibd, celui qui est devenu cheikh, fundi, alim, ou quel que soit ce qu'il a fait, il doit Allah Azza wa Jal premièrement. Ensuite, il doit voir qui sont les personnes qui l'ont aidé, qui l'ont transmis les premières bases, que ce soit le alif, ba, ta, tha, jusqu'à la maîtrise des sourates du Coran, de la lecture, jusqu'à l'enseignement du hibd. Donc le mu'min doit vivre avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect et beaucoup de reconnaissance pour l'effort qui a été fait par les anciennes générations. Lorsqu'on fait la salat al-tarawih, pour ceux qui étaient assidus, il y a des fois où on pouvait faire les 20 rak'at, vous n'entendiez pas une faute de la part d'un imam. Et nous, entre nous, on se disait, ce soir c'était le grand chelem, pas une faute. Il y a des fois aussi, là, chacun avait son mauvais jour. Il y en a qui ont chuté dans Wal Fajri, il y en a qui ont chuté dans Surat al-Mumtahina, Il y en a qui ont chuté dans telle sourate en fonction de nos manquements, de les révisions. Mais vous savez, très souvent, il y a des gens qui sont là, qui notent. Lui, il fait une faute. Lui, sa moyenne, c'est 2 fautes. Lui, c'est 5 fautes. Mais ça, c'est pas important, ça. C'est pas important du tout, ça. Parce que vous savez, la personne qui monte chez Moussalla, il a tellement révisé le roub ou le nirs, le quart ou la moitié de ce qu'il va réciter, il a tellement révisé que vous pouvez lui poser une question n'importe quel endroit, dans l'ordre, le désordre, il vous récite intégralement. Mais la pression du Moussalla, ça c'est autre chose. La pression qu'il y a sur les épaules d'un imam lorsqu'il doit diriger, doit officier pour 20, 30, 50, 100, 200 personnes, ça c'est qu'un autre imam qui peut comprendre. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, on connaît Sourate Yassine. Si quelqu'un récite Sourate Yassine là, tout seul, il le fait sans faute. Mais si on lui dit demain, Namaz Fajr, tu fais Sourate Yassine, ça va être l'hécatombe. Parce que la pression, l'angoisse, le stress, fait que la personne, même si elle maîtrise ce qu'elle dit, la personne risque de se tromper. Donc, qu'on comprenne bien que ce Coran, l'objectif dans la salat, c'est de l'écouter, d'admirer la beauté des versets qu'Allah Azza wa Jalla a révélés, de méditer sur le sens, si on a la possibilité de comprendre le sens, et l'objectif final, la consécration, c'est de mettre ce Coran en pratique. Mes chers frères, très rapidement, notre relation avec le Coran ne doit jamais s'arrêter. Même si on est devenu hafid al-Qur'an, ça ne veut pas dire que je suis un docteur es-Qur'an. Ça ne veut pas dire que je maîtrise le Qur'an. Je suis certes un protecteur, mais ça ne s'arrête pas là ma mission. La relation du musulman avec le Qur'an, c'est tout d'abord la lecture, bien sûr. Et quand on parle de lecture, vous voyez comme les a'imams ont lu ce soir, c'était une lecture lente. C'est la même façon qu'ils ont lu durant tout le mois de Ramadan. Ne croyez pas que Nana l'a fait dentelle, entre guillemets, parce que c'est le dernier jour, parce que les sourates sont petits. On a lu exactement de la même façon. Certainement, dans les autres endroits, on sait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit, les gens qui chronomètrent, comme si on était aux Jeux Olympiques. On dit en ville, il finit 21h, au Latanier, 20h55. Simple titre, 21h15. 15 minutes en plus. Mais Alhamdulillah, ce qui est remarquable et admirable, et là les félicitations vont à la Jamaat, au public, c'est qu'on n'a jamais entendu une personne faire une remarque que Moussa ou Fundi, il faut lire plus vite là, à nous fatiguer, besoin de dormir là. Du tout, les gens respectaient les a'immas bien sûr, et ils respectaient la lecture du Coran. Ce qui fait que ce quartier pour moi c'est un quartier Mubarak, parce qu'ils ont le respect des personnes qui sont sur le Moussallah, et ils ont le respect pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si on a passé 15 minutes en plus debout, pensez-vous pas que 15 minutes multipliées par 29 jours ou 30 jours, est-ce qu'on va pas voir les récompenses de ces 15 minutes multipliées le jour des comptes, parce qu'on est resté plus longtemps debout? On a pu écouter le Coran avec plus d'attention. On a donné le haqq, le droit au Coran, et makharij al-huruf. On n'a pas, alhamdulillah, mâché les mots. On n'a pas confondu les prononciations. On a lu bi'idhnillah de la manière la plus correcte qu'on a pu faire, mais toujours avec le respect du Coran. Il est beaucoup mieux de lire Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Imaniki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, plutôt que de Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Imaniki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in. Vous finirez 20 minutes plus tôt. Il n'y a pas de radar ici, hein. C'est pas que vous perdez des points, il n'y a pas de radar. Mais pour Allah Azza wa Jal, est-ce qu'on est en droit de lire la révélation d'Allah comme si on est pressé de terminer? Et que beaucoup, parfois, quand ils ont terminé, ils font quoi? Ils continuent leur bayan personnel à l'extérieur. Ça, c'est un petit piège de Shaitan aussi. Donc, l'objectif vraiment, mes chers frères, c'était d'admirer la beauté du Coran. Et Allah Azza wa Jal nous a donné la possibilité ce soir de compléter le Coran. La relation du musulman avec le Coran, c'est une lecture correcte, une lecture avec la prononciation, avec le tajwid. Et l'idéal, comme on a dit, c'est de pouvoir méditer sur le Coran. Qu'Allah Ta'ala dit au Coran, Afala yatadabbaruna al-Quran. Allah Ta'ala attend du musulman qu'il puisse méditer sur le sens des versets. Vous savez, lorsque le Prophète dit qu'à une époque, il y aura beaucoup de problèmes, beaucoup de fitnas. Déjà, à notre époque, on dit qu'on voit tout ce qui se passe autour. On dit que oui, il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a une émancipation excessive de la sexualité. On a peur pour nos enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Prophète a dit que je vous ai laissé 2 choses. Accrochez-vous à ça. Vous ne serez jamais égarés. Le Prophète a dit, c'est quoi ces 2 choses? Kitabullah wa sunnati. La parole d'Allah et la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dites-moi, mes chers frères, est-ce que face aux fitnas,
il suffit de lire le Coran et de lire les hadiths. La simple lecture nous procurera des récompenses, certes, mais pour lutter contre les influences extérieures, contre les attaques contre notre foi, nos croyances, il faut qu'il y ait une symbiose entre le lecteur et ce qu'il lit, qu'il voit quels sont les ordres d'Allah Azzawajal pour les mettre en pratique. Donc, il est extrêmement important qu'un moumine, quel que soit l'âge, il peut être jeune ou moins jeune, qu'il apprenne à comprendre ce qu'il lit, ne serait-ce ce qu'il lit régulièrement Al-Fatiha, et ne serait-ce les 10 versets, les 10 sourates du Coran, pour pouvoir méditer et mettre en pratique l'ordre d'Allah Azzawajal. Et vous pensez, il y en a qui se disent que, ben on a lu beaucoup ce soir, on a lu beaucoup pendant un mois de Ramadan. Vous savez, le prophète alayhi salatu wasalam, combien il lisait? Une fois, Hudhayfa radiallahu anhu, il dit que je me suis joint à la salat du prophète alayhi salatu wasalam pendant le mois de Ramadan. Pendant la première rak'at, il a lu Al-Baqara, An-Nisa et Al-Imran. Et à chaque fois qu'il y avait un verset où il fallait demander protection à Allah, il s'arrêtait et il demandait protection à Allah Azza wa Jalla. Al-Baqara, c'est combien de sipara? 2,5. An-Nisa, c'est combien de sipara? 1,5 à peu près. Al-Imran, c'est combien? À peu près 1,5. Ça fait 3 et demi. Ça fait 5 sipara et demi. 5 juz et demi. Qui est capable de lire autant? Ça, c'était la lecture du prophète alayhi salatu wasalam. Ça, c'est pas pour qu'on comprenne. On a l'impression qu'on a été les champions du Coran durant ce mois. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il faisait lire à Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, et Tamim ad-Dari, 200 versets par rak'at. 200 ayats dans chaque rak'at de la salat al-Tarawih. Et les tabi'in, rahimahumullah, les descendants des sahaba, ils avaient l'habitude, lorsqu'ils faisaient la Tarawih, le surat al-Baqara, de 6 par et demi à peu près, ils le lisaient en 8 unités de prière, en 8 rak'at. Alors que nous, le Baqara, on le fait en 2 jours. Eux, ils le faisaient en 8 rak'at. Donc, alhamdoulilah, on a fait notre effort, mais ceux qui étaient avant nous, ils faisaient beaucoup plus d'efforts. Et il lisait avec concentration et dévotion. Mes chers frères, notre relation avec le Coran était intense durant ce mois de Ramadan. On rentrait dans une mosquée, on voyait les gens avec le Coran, les gens lisaient, de tel point qu'on allait sur les étagères, il n'y avait plus de Coran. Alhamdoulilah, il y en a qui téléchargent sur leur iPhone, avec Android et tout, hein, on a l'impression qu'ils jouent, ils ne jouent pas, ils sont en train de lire le Coran. Ça veut dire qu'alhamdoulilah, les musulmans prennent conscience de l'importance du Coran durant le mois de Ramadan. Là aussi, si quelqu'un fait un khatm al-Quran ou deux, on se dit que c'est bien. Imam al-Shafi'i, rahimahullah, et Imam Abu Hanifa, tous les deux, ils faisaient, leur quota c'était 60 khatm al-Quran dans le mois de Ramadan. Imam al-Shafi'i faisait 60 khatm al-Quran. Imam Abu Hanifa faisait 60 khatm al-Quran. Ça fait combien de khatm par jour? 2 khatm al-Quran par jour. Imam Malik, rahimahullah, le grand narrateur de hadith, il dit que quand le mois de Ramadan arrivait, il fermait les livres de hadith. Il dit qu'on ne fait plus de dars de hadith. C'est le mois du Coran, du matin au soir, en lecture du Coran et rien d'autre. Mes chers frères, gardez une relation permanente avec le Coran parce que ce livre d'Allah, il y a la vie du mu'min dans le Coran. Et ce Coran sera avec nous à 3 moments importants. Une narration de certains tabi'in dit que lorsque le musulman est dans l'agonie, il y a des anges qui viennent et disent: regarde, qu'est-ce que tu trouves comme action auprès de la personne. Il regarde au niveau de la tête de la personne, il dit: ajidu fi ra'sihi al-Quran. Je vois le Coran. Il regarde au niveau de son cœur, il dit que je trouve le jeûne, le carême. Il regarde au niveau de ses pieds, il dit que je trouve le qiyam al-layl, le tahajjud. Et l'ange dit: hafidha nafsahu, hafidhahullah. C'est quelqu'un qui s'est préservé toute sa vie. À ce moment-là, ihtidar, c'est pas simple ça, c'est l'agonie. Au moment où Shaitan il vient, il essaie de dire à la personne: quitte le din. Hadith dit qu'au moment de mourir, Shaitan vient, il dit: mut yahoudiya, ou mut nasradiya, fa huwa khayrul lak. Et le musulman a besoin de rester ferme ce moment. Et là, on a des malaïkas qui viennent et qui annoncent la bonne nouvelle que c'est quelqu'un, parmi les qualités qu'il avait, c'était il restait ferme dans sa lecture de Coran. Pas de le mois de Ramadan, lecture de Coran toute l'année. Également, le prophète alayhi salatu wasallam dit le hadith très connu que le jour des comptes, inna al-Qur'an ayati, le Coran et le jeûne, ce sont deux actions qui vont intercéder pour la personne le jour de Qiyam. Et dans une version, il est dit également que le Coran viendra s'installer auprès de son lecteur le jour dans la tombe. Il dit que ana alladhi, hein, c'est moi qui prenais tes nuits. Je te levais la nuit pour lire le Coran et wa amna'uka shahawatak, et tu me mettais en pratique. Fasatajiduni min al-akhilla. Aujourd'hui dans la tombe, je suis ton meilleur compagnon. C'est pour ça qu'on a besoin de garder une relation permanente avec le Coran. C'est pas juste que le début de Ramadan, on est assidu à la lecture, on s'est programmé de lire 2 ou 3 khatm le Coran et après c'est terminé. Non, la relation du mu'min avec le Coran doit être permanente. Et on doit demander idéalement à Allah Azza wa Jal, « Oh Allah, quand l'ange de la mort vient reprendre mon âme, que ce soit un moment où je suis en train de lire le Coran et que je meurs. » Comme Uthman ibn Affan, lorsqu'il lisait le Coran, les gens l'ont assassiné. Il lisait quel verset ?« Fasayakfikahumullah » Et Uthman ibn Affan est décédé. On doit demander à Allah que je devienne, « Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an » que je devienne parmi la famille, les proches du Coran, et que je meure en lisant le Coran. Et les Ahlul Qur'an, c'est quoi? C'est ceux qui rendent licite ce que le Qur'an a rendu licite et ceux qui rendent illicite ce que le Qur'an a rendu licite. C'est-à-dire ceux qui mettent les ordres d'Allah Azza wa Jal en pratique. Demandons à Allah Azza wa Jal donc de nous donner istiqama. On se terminera par une citation d'un descendant des Tabi'in qui s'appelle Ahmed ibn Abi al-Hawari, rahimahullah. Il dit une parole magnifique, on le lire en arabe, la moitié de la salle est arabophone. Il dit « Inni la aqra'u al-Qur'an » dit que « J'aime lire le Coran. » Il n'est pas hafez. Il n'est pas hafez, mais vous allez voir pourquoi. « Wa anzuru fi aya aya » Et à chaque fois que je lis, j'analyse chaque verset. « Fayuhiru qalbi, fayuhiru aqli biha » Et je suis étonné, je suis impressionné chaque verset que je lis. « Mais wa a'jabu » Je m'étonne « min huffaz al-Qur'an » Je m'étonne de celui qui mémorise le Coran. Comment est-ce qu'ils peuvent dormir le soir ? Descendant Tabi'in, hein, c'est pas quelqu'un de notre époque. Hein. Il dit que quand je vois la beauté de chaque verset, je me dis, mais le hafiz du Coran, comment il gagne le sommeil? Comment est-ce qu'il arrive à dormir le soir? Et comment il peut faire quelque chose de dunya? Comment est-ce qu'un hafiz du Coran peut consacrer son temps? Ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais pour lui, il n'arrive pas à comprendre. Il dit, parce que vraiment, s'il savait, Ama, on a retrouvé le fil, Ama, innahum. لو فهموا ما يتلون si seulement ils comprenaient ce qu'ils lisaient وعرفوا حقه et ils savaient le droit du Coran لذهب عنهم نوم فرحا بما قد رزقوا si le hafiz il comprenait et il faisait comme on dit ici il faisait qadar hein, il donnait l'importance sa juste valeur de ce qu'Allah lui a donné il dormirait plus la nuit tellement il serait rempli de joie qu'Allah Ta'ala lui a accordé l'intégralité de sa parole. Donc nous demandons à Allah Azza wa Jal de donner istiqama dans la lecture, même après le mois de Ramadan, et que chaque verset qu'on a entendu fasse l'effet sur notre cœur et qu'on puisse le mettre en pratique. Alhamdulillah également, on a tenu hein, durant ce mois et comme d'autres années, à chaque fois qu'on terminait la salat au Tarawih, on tenait à expliquer un verset afin qu'on ait une petite approche de ce qu'on a lu. On ne deviendra pas mufassir. On ne deviendra pas Ibn Kathir ou Baydawi ou autre, mais au moins on a une petite idée qu'est-ce qu'on a entendu ce soir. On a commencé le premier Tarawih avec l'historique du Ramadan, avec les différentes situations. On est passé ensuite sur la Sourate An-Nisa, les droits des femmes. On est ensuite passé sur la Sourate Al-Ma'ida, avec ce qu'Allah a rendu licite et illicite. On est passé sur la Sourate Al-An'am, avec un verset qui explique l'agonie. Quand quelqu'un meurt, comment c'est difficile, comment les anges s'approchent de lui. On a lu de la Sourate Al-A'raf. Une mise en garde, Allah dit attention, ô être humain, que Shaitan ne vous détourne pas, comme il a détourné à Adam a.s. lorsqu'il a fait commettre l'irréparable. On a lu un verset qui montre également qu'Allah sait exactement ce qu'il y a dans notre cœur. On a vu le verset de Sourate Ar-Ra'd, où Allah sait exactement ce qu'une femme porte dans son ventre, et qu'Allah est le alimul ghaib. C'est celui qui connaît l'invisible. On a lu de Sourate Al-Hijj, un verset sur le jour du jugement, et que les gens qui n'avaient pas iman, comment ils auraient souhaité retourner sur cette terre, faire des actions pour avoir la foi. On a vu de le 15e juz, Sourate Al-Isra, que pour chaque être humain, il y a des anges qui écrivent les actions, et que le jour des comptes, les actions seront présentées devant le jugement, devant la balance, le jour des comptes. On a vu de la Sourate Maryam, la création de Isa alayhi salam, la grossesse de Marie, Maryam alayhi salam. On a vu comment les croyances des musulmans et des chrétiens sont proches. comment il y a énormément de proximité et comment Allah Ta'ala dit que les gens les plus proches de vous sont les chrétiens. Et c'est une parole qui doit être citée, sachant qu'on habite dans un pays, dans une île où la majorité de la population est de confession chrétienne. Et Allah Ta'ala dit: wa la tajidanna aqrabahum mawadda lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara. On a vu également les croyances communes jusqu'à la fin des temps. Avec nous, on attend le retour de Isa alayhi salam un jour. Eux aussi, ils attendent le retour de Jésus. Et lorsque Jésus-Christ sera de retour, toutes ces personnes-là apporteront iman en Allah. Ils diront la ilaha illallah et ils seront avec nous dans le droit chemin. On a vu également de surat, dans le 15e tarawih, que toute âme doit goûter à la mort. Ça, c'est un rappel important. Et on a vu l'histoire de Moussa alayhi salam, l'histoire de Pharaon. On a vu les qualités des croyants dans le 18e juz, etc., etc. On a vu les combats qu'il y a entre les anges et les shayatines qui essaient de voler les informations du ciel. Et le dernier tafsir, le dernier verset qu'on a révélé, et ça aussi c'est un verset d'actualité important pour quelqu'un qui habite dans un pays où les musulmans sont minoritaires. Ce fameux verset, la yanhakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din, que quand on vit avec des personnes qui ont d'autres confessions, il ne faut pas les considérer comme des ennemis. Comme beaucoup de gens pensent que celui qui n'est pas musulman, il est contre nous. Allah Azza wa Jal dans le Coran dit, si c'est des gens qui ne vous ont pas fait du tort, ils ne vous ont pas combattu pour la religion, Allah vous ordonne d'agir correctement avec eux. Car inna Allah yuhibbul muqsitin. Ça, c'est des versets extrêmement importants et qui répondent à 50 années de terrorisme. J'ai cherché le nombre d'années, peut-être plus, 50 années de terrorisme. On peut répondre, on peut vraiment montrer que vous étiez dans le faux, car Allah Ta'ala n'interdit pas, n'a jamais dit de considérer les autres comme étant des personnes ennemies, mais bien agir. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Mes chers frères, ces enseignements étaient extrêmement importants. On a besoin d'avancer dans nos relations avec le Coran. Et enfin, en 5 minutes, ce soir on vit un deuxième événement important, mais également symbolique. C'est un nikah, ce n'est pas le premier nikah que vous assistez. Inch'Allah, pas le dernier. Quoique, hein, si quelqu'un meurt ce soir, il s'en sort bien. Nuit impaire, nuit de Ramadan, je ne sais pas qui est prêt. Si vous demandez si je suis prêt, je vous dis non, je ne suis pas prêt. Là, Wallah, qui peut se dire, si Malik al-Maud vient là, Malik al-Maud dit, ça ne se passe pas comme ça, malheureusement, dit, celui qui est prêt, lève la main, je prends son âme. Même si on se dit que je suis en état de wudu, je viens de faire khatm al-Qur'an, je viens de faire du'a, j'ai jeûné 30 jours, 30 jours, je ne fais pas bêtise, 30 jours, je fais tahajjud. Lui, un père du Ramadan, personne ne dit que je suis prêt. La madame, nos enfants, il y a tant, il y a travail, il y a telle chose. Et bien avant ça, on a tellement de péchés, on n'a pas terminé. Je vous dis clairement, Allah Akbar, la première nuit impaire, le 21e, je suis en train de faire comme tout le monde, il n'y a pas d'ostentation, tout le monde s'est réveillé. Et à un moment donné, en faisant droit, je me suis dit, est-ce que je peux, on ne demande pas la mort, hein, mais je me suis dit, mais si Malik al-Maud vient là, mais je suis en train de faire Qiyamul Layl, Tahajjud, en état de wuzu, dernier tiers de la nuit, mois de Ramadan, les anges disent Amin. Est-ce que je suis prêt à retourner auprès d'Allah? Il me dit non, mais pas prêt, jamais. Maman, il dort là-bas, les enfants, les petits, la rentrée dans 6 jours, qui s'amène aux autres l'école, mais a besoin de faire ça. On se dit qu'on est encore attaché au dunya et qu'on se dit qu'on a tellement de bêtises, on a accumulé tellement d'erreurs qu'on a besoin encore de temps, oh Allah, pour demander tawbah. Mais Allah, il est tellement généreux. Ça me dit que si quelqu'un se présente devant Allah en demandant doua, je veux dire, avec autant de péchés qui peuvent remplir l'espace entre le ciel et la terre, mais si son cœur est pur et sincère, il trouvera un Seigneur qui est pardonneur et miséricordieux. Parce qu'Allah t'a dit Quran, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, même celui qui a fait beaucoup d'erreurs, la taqnatu min rahmatillah, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, car inna Allah yaghfiru adh-dhunuba qalilan ahyanan kathiran jami'a, tout. Allah pardonne, c'est pas un peu ou parfois ou quand il en vit ou quelque, Allah pardonne l'intégralité de tous les péchés, parce qu'Allah Ta'ala il est Al-Ghafur Rahim. Nos cœurs doivent être remplis d'espoir et d'amour. Il n'y a pas de bons musulmans, de moins bons musulmans. Il y a des gens qui ont fait des erreurs, qui ont été induits en erreur par Shaitan, et il y a des gens qui ont su résister. Mais on a la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans notre cœur, et on a husnul dhann billah, la meilleure pensée sur notre créateur. Tout le monde peut devenir le premier. Et tout le monde doit demander waj'alna lil muttaqina imama, qu'on soit, regardez l'ambition qu'il y a de notre dîn. On ne demande pas à Allah d'être parmi les pieux, d'être parmi les meilleurs, les imams des pieux. Et dans ce mois de Ramadan, c'est le moment d'avancer. C'est le moment de gagner des points, de monter en darajat auprès d'Allah et de chasser ces péchés qui nous ralentissent. De faire le niyyah sincère qu'à partir de ce mois, c'est fini mes péchés. Je ne fais plus telle erreur. Oh Allah, dans ce mois, tu m'as donné la possibilité de ne plus regarder telle chose, de ne plus écouter telle musique, de ne plus faire tel péché durant un mois. Oh Allah, donnez-moi istiqama, fermeté, constance que jamais plus. Je ne veux pas retomber. Je ne veux plus rechuter dans les mêmes péchés. Pourquoi est-ce que Shaitan, il pourrait m'avoir aux deux Shawwal le lendemain du Eid? On demande à Allah de l'aide pour qu'il nous préserve. Et on demande à Allah de nous aider pour rester ferme dans les bonnes actions. Donc on dit que ce soir, c'est un nikah important, mais c'est un nikah également symbolique. Parce qu'on a notre jeune Mohamed Jibril qui est beau, avec cette lumière qui a sur son visage, masha'Allah, qui a eu une heureuse élue. Heureuse cette princesse qui a eu ce prince, c'est mademoiselle Batouta. J'ai bien prononcé. Comment ?
Batouli.
Batouli, excusez-moi, Batouli. Mais ce qui est symbolique, c'est que Mohamed Jibril, il est de parents d'origine indienne. Et mademoiselle Batouli, ses parents sont originaires des îles Comores. Et ils se marient. Ils se sont connus. Allah a mis de l'amour, de la muhabba. Et ça nous ramène vers un verset qu'Allah Ta'ala a fait différentes races. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَتْحَارَبُوا pour vous battre, pour coloniser l'autre, vous laissez bien لِتَعَارَفُوا pour qu'on apprenne à se connaître. L'humanisme là, c'est pas Voltaire, c'est pas 18e siècle, c'est pas le siècle des Lumières. On n'a pas à recevoir de leçons de quiconque. C'est An-Nabi alayhi salatu wa sallam, ce qu'il a reçu de la part d'Allah. Aimez-vous les uns les autres. On le retrouve dans la Bible. Mais لِتَعَارَفُوا, apprenez à vous connaître. Apprenez à vous apprécier mutuellement. Et Mohamed Jibril, il est parti beaucoup plus loin que لِتَعَارَفُوا. Il est parti même لِتَتَزَوَّجُوا, alhamdulillah. Mais ça, c'est grand, ça. Pour moi, c'est symbolique. C'est profond. J'expliquais à notre ami Shakil. J'ai dit, Shakil, tu viens ce soir, c'est sale comble, là. Ce soir, c'est formidable. On a un mariage entre un enfant, un jeune d'origine indienne et une jeune fille d'origine comorienne. Il m'a dit, Moana, tu me dis ça, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Alhamdulillah. Cette génération, c'est la génération du changement. Cette génération, elle va montrer c'est quoi la muhabba de la Ummah, que nous sommes une communauté unie, qu'Allah Ta'ala ne regarde pas les visages, les couleurs, aucun avantage, l'arabe, le non arabe, le noir sur le blanc du jaune, et l'habit attaqwa, la seule chose qui compte c'est qu'il y a dans les cœurs, venir vers Allah avec un cœur pur. Donc mes chers frères, ce soir c'est une nuit extrêmement importante. En plus d'avoir fait le khatm al-Qur'an, nous allons mettre en pratique, nous allons officier une nikah qui est une action en rapport avec la foi, car avec la foi, Mohamed Jibril et Mlle Batouli, ils et elles vont protéger la moitié de leur iman. Et c'est également une action en relation avec les sentiments. On se marie quand on s'aime. Et quand on se marie, on va concrétiser cet amour qui existe entre deux personnes. Et ça, c'est magnifique. Et lorsqu'on se marie, on respecte la fitra, l'inéité. Vous entendez parler du mariage homosexuel et tout ? Il y a certains dignitaires religieux qui s'opposent. Mais ça, c'est contraire à l'inéité, la fitra. Et quand on se marie, alhamdulillah, on suit la fitra comme Allah Ta'ala a créé. L'être humain, quand on a dit le Coran, هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. Dites-moi, Adam alayhi salam, il quitte le paradis, oui ou non? Il n'était pas heureux là-haut? Il n'avait pas tout ce qu'il fallait? Et pourquoi Allah Ta'ala lui a donné une femme? On peut se dire qu'il avait tout. Mais Allah Ta'ala savait que pour que l'être humain trouve la tranquillité, la stabilité, l'équilibre psychologique et spirituel, l'homme, ça sent bon, hein, le biryani, ça arrive, il y a le nikah avant. Attention, on a tellement fait qu'on va zapper le mariage. Non, il y a un mariage juste après. Mais on va terminer. Allah Ta'ala savait que pour que cet être humain connaisse l'épanouissement complet, l'homme doit vivre auprès d'une femme, parce qu'auprès de la femme, il trouve quelque chose qui ne s'achète pas. As-sakina. Sakina, c'est quoi? C'est un état d'esprit, c'est un apaisement de l'âme, une tranquillité intérieure qu'on trouve uniquement auprès de son épouse. C'était l'habitude, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, la sunna de tous les anbiya alayhi salatu wassalam. Le seul prophète qui ne s'est pas marié, c'est qui? Isa alayhi salam. Et quand il reviendra sur la terre, le retour de Jésus, il se mariera comme tout prophète et il mourra comme tout être humain. C'est le seul prophète qui n'est pas mort réellement, il a été élevé au ciel, et le seul prophète qui ne s'était pas marié. Quand il reviendra, il va se marier parce que c'est la tradition de tous les Anbiya et il va mourir comme tout être humain. Le Coran parle du nikah et très souvent on pense que quand on parle de nikah, c'est toujours les règles, les droits et les devoirs. Le Coran parle de l'amour, des sentiments. Parce qu'Allah t'a dit « وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » L'amour, la compassion dans le couple. Il y a des fois on se dit que je ne savais même pas que le Coran fait mention de la muhabba qui doit exister entre un homme et une femme. Et Allah t'a demandé dans le surat An-Nisa, dans tous les versets du surat An-Nisa, 6 par 1,5, quelle version on a retenu, Usama, si tu étais attentif et tu l'étais ?« وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » Allah ordonne à un mari de se comporter correctement avec sa femme. Si c'est, on peut retirer l'enseignement principal du surat An-Nisa, c'est ça. Pour parler d'une religion misogyne, une religion qui ne reconnaît pas les droits de la femme, Allah t'a dit le Coran, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Agissez, comportez-vous correctement vers elle. Le prophète alayhi salat wa sallam dit le meilleur musulman, le meilleur croyant, c'est celui qui a le meilleur comportement akhlaq. Et le meilleur parmi vous, c'est celui qui agit le mieux avec sa famille. Et je suis votre modèle. Je suis le meilleur mari de cette umma. Je suis celui qui agit le mieux avec sa femme. Donc, en ce sens, prenez-moi comme exemple. Vous rappelez l'anecdote qu'on rappelle dans tous les nikahs, le prophète reçoit le plat de nourriture avec une de ses épouses alors qu'il est chez une autre femme. Notre épouse, elle est en colère, elle prend, le jette, fait une scène de ménage. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se baisse, il ramasse la nourriture et le plat. Il n'a pas insulté, il n'a pas réprimandé, encore moins frappé sa femme. Il sait qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de cette femme. Ça, c'est An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Aïcha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohamed Jibril, écoute, quand le prophète m'a interpellé, c'était avec des mots doux. Il y a des fois, on entend les hommes et les femmes s'interpeller par leur prénom. C'est pas interdit. Monsieur Madame Mariam dit, Mariam, on n'a pas fait qu'une manger. Mariam, qu'elle n'est pas sa table. Le prophète, il appelait sa femme par des mots doux, comme nous. Excusez-moi, hein, on dit ma chérie, ou alors ma bien-aimée, ou je ne sais pas les mots qu'on utilise, d'accord. Le prophète appelait sa femme Ya Humaira, Ya Aish, des diminutifs. C'était comme on dit des petits noms gâtés. Pour montrer l'attention qu'un mari doit porter sa femme, c'est pas uniquement le joyeux. Il doit acheter un complet de bijoux, une rivière de diamants ou de je ne sais quoi. Non, c'est tous les jours. Aïcha, radiallahu anha, disait que à chaque fois que le prophète quittait la maison pour aller à la masjid, il m'embrassait, il partait. Qui fait ça aujourd'hui? Abbas Saïd fait ça. Mon Abbas Saïd. La partie va mettre ça en pratique. Nabi alayhi salatu wassalam embrassait son épouse à chaque fois quand il quittait la maison pour attendre. Le prophète n'habitait pas à 5 km de masjid. Sa maison était collée avec la masjid. Il tirait le rideau, il était à la masjid. C'était important qu'une femme. Il y a des dames là? Non, avant. Une femme, elle a besoin de se sentir aimée. Elle a besoin que le mari lui montre régulièrement que tu comptes pour moi. Autrement dit quoi, mais il est servante, mais il a que pour faire vaisselle, que pour mettre linge dans une machine et tout. Elle a besoin que tous les jours on rappelle que tu es ma bien-aimée. Je t'ai choisi, il y avait plein de femmes. Je t'ai choisi, toi tu es la meilleure. Tu es aussi belle depuis le premier jour jusqu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage. C'est pour ça que le prophète a montré à travers le quotidien que le mariage, c'est pas l'amour fou, c'est pas le coup de foudre. La société occidentale nous fait comprendre que l'amour, c'est le coup de foudre. Mais le coup de foudre, c'est comme la foudre, ça dure quelques secondes. Vous l'aimez, amoureux, 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 et puis, ben, le lendemain, la puniache, là, il lève. Ben, on a fini bordelier ou on a fini aller quelqu'un, fini avec une note. Et entre-temps, on a fait quoi? Ben, on a sali une fille. Là, ça fait plus rien, là. Le garçon qui sort avec une fille, deux jours, trois jours, une semaine, deux semaines, puis dit que j'ai... ça marche pas entre nous, je trouve pas vraiment les sentiments, on n'est pas sur la même longueur d'onde, je ne trouve pas la symbiose entre nos cœurs, tout ça pour dire ma fille, trouve-toi une tantine les plus bombastiques que toi, et nous l'engaler et on va voir. Et entre temps le papa et la maman ils disent ben, tu ne devais pas te marier avec Ismaël. Je dis un nom hasard, hein. Oui, mais il m'a plaqué. Il t'a plaqué et il t'a sali, il a sali ta réputation. La marché dans la rue Maréchal Leclerc avec toi, tout le monde a su que Ismaël il sort avec Fatima et que, et maintenant il est plus ensemble, il se marie plus. Ben notre monde ne veut pas une demande sur Fatima. Viens, fille, la fille ne traîne pas. Tout c'est comme une gomme ça, fille ne marchait pas en 1000 personnes, nous ça reprend ça. Sali. Est-ce que c'est ça l'amour? Mes chers frères, est-ce que c'est ça le izza de la femme? Le izza de la femme, c'est quand ce jeune homme vient voir le prophète et dit oh Nabi Allah, j'ai trop de pulsions en moi. Et donc, le prophète, il reçoit ce jeune homme qui dit oh Nabi Allah, donne-moi l'autorisation de faire le zina. ne pouvait pas se marier. Il dit, je veux le tromper l'adultère. Sahaba, il commence trop, ça mange, t'es quoi fait là? C'est un affaire pour demander le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, demande le Prophète l'autorisation de faire le zina. Mais quel, subhanallah, effronté. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde la psychologie de cet homme. Ça dépasse Kant, ça dépasse Freud, ça dépasse, subhanallah, c'est un pseudo-psychologue, psychiatre. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce jeune homme, il va inverser la tendance. Il sait que ce jeune homme a une maladie. D'accord ? Et il va faire comprendre, est-ce que tu serais d'accord que quelqu'un fasse la même chose avec ta mère ? Dis jamais au prophète d'Allah. Hein, il dit que non, c'est pas possible. Tu serais d'accord que quelqu'un fasse ça avec ta soeur ? Dis jamais au prophète d'Allah. Que quelqu'un fasse ça avec ta tante ? Dis jamais au prophète d'Allah. Il a dit, mais sache que la fille que tu convoites, c'est soit la maman de quelqu'un, soit la soeur, soit la fille, soit la tante, soit la nièce de quelqu'un. Ce que tu n'aimes pas pour toi, là, ben les gens n'aiment pas pour eux aussi. Sahaba a compris, ce jeune a compris. Il a dit, oh Allah, il a dit au prophète d'Allah, demande un doigt. Le prophète a dit, oh Allah, il a fait un doigt pour que ce jeune homme-là s'éloigne de ce péché et il est resté éloigné de ce péché. Ça, c'est l'honneur que l'islam a accordé à la femme. Il y a un groupe sur Facebook qui dit, la fille n'est pas un jouet. Effectivement, dans notre dîn, la fille n'est pas un jouet. Ça, c'est un cadeau. Et on terminera avec deux citations. Le prophète alayhi salatu wa salam explique qu'une femme vertueuse, ça, c'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Muhammad Jibril a eu le gros lot là. Il a une fille qui est hafidha, qui a pris avec Moana Abdul Raouf qui est présent parmi nous, Abdul Malik. La fille, elle connaît le Coran par cœur. C'est un cadeau de la part d'Allah. Une fille pieuse qui a dans son cœur, dans son sadr, l'intégralité de ce qu'Allah azzawajal a révélé, c'est là un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les hadiths qui stipulent que parmi les grands bienfaits qu'Allah peut accorder à un homme, c'est une femme pieuse, une femme vertueuse. Ala ukhbiruka, hein, parmi les kunouz de l'homme, al mar'atu saliha. Également, Muhammad Jibril certainement doit être quelqu'un de bien. Husnuvan, le Prophète dit que si un jeune homme, un homme, vient poser une demande sur une fille et qu'il a les qualités, le prophète dit à ce papa, ne refusez pas. Ne refusez pas sans raison valable. Si vous le faites, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, vous serez à l'origine de troubles et de péchés. Donc avoir un bon gendre, c'est un cadeau de la part d'Allah, et pour un beau-père avoir une bonne belle-fille, c'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons à Allah Azzawajal, le très haut, le très clément, de mettre beaucoup de baraka, beaucoup, beaucoup de bénédictions dans cette union. Et que ce jeune homme, Muhammad Jibril, et son épouse, Inch'Allah, jour après jour, leur amour augmente. C'est pas que quand on se connaît un mois, c'est l'amour intense, et après, la routine. Il faut pas qu'il y ait de routine. Les, subhanallah, l'abdu du Prophète sallam, durant toute sa vie, c'était pour faire comprendre que dans une relation d'homme et femme, il n'y a pas de routine. Quand le Prophète sallam, il prend une bouchée de nourriture et il met dans la bouche de son épouse. Qui fait ça aujourd'hui? Vous avez trouvé ça dans Love Story? Dans Secret Story? Dans, je sais pas qui ça? Dans tous ces pseudo-amours, il n'y a pas tout ça. Il y a, on sort ensemble et on plaque et on passe à quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun izza, aucun honneur. Quand le Prophète, il prend une bouchée de nourriture, il met dans la bouche de sa femme et dit que quand un homme fait ça, c'est un sadaqa. Quand Aïcha dit que le Prophète, il me voyait boire dans un verre, il prenait le verre, il cherchait où je posais mes lèvres et il posait ses lèvres au même endroit. Quand je mangeais dans un morceau de viande, il prenait le même morceau, il mangeait au même endroit. Pour montrer que toi, tu fais partie de moi et moi, je fais partie de toi. C'est un amour entre nous qui est installé. Muhammad Jibril, qu'Allah t'accorde le même muhabba qu'il y avait entre Nabi alayhi salatu wasalam et Khadija radiallahu anha, entre Nabi alayhi salatu wasalam et Aisha radiallahu anha, Nabi alayhi salatu wasalam et toutes ses épouses, Azwaj al-Mutahara. Jour après jour, ce muhabba augmente, ce mawadda augmente, et l'amour est basé sur le respect. Et là, plus encore, quand les deux conjoints sont issus de familles et de cultures différentes, il faut apprendre à se connaître et à tirer le meilleur des deux cultures. Pour que vos enfants aient les qualités de ces deux communautés, les qualités de tes parents, et qu'ils auront les qualités de la maman, Inch'Allah, et qu'il deviendra un représentant de ces deux communautés avec ce qu'il y a de mieux. Et que de jour après jour, Allah Ta'ala augmente votre iman, votre attachement à lui, vous fasse comprendre la réalité du dunya et la réalité du akhirat, du retour auprès d'Allah Azza wa Jal, et qu'Allah vous accorde dhurriyatan tayyiba, beaucoup d'enfants. Mon père dit pas beaucoup, parce que de nos jours, les dieux, beaucoup. Allahumma, kathir, ya Allah, kathir, kathir. Ce que le prophète m'a dit, je voudrais être fier de vous le jour des comptes. beaucoup d'enfants et qui seront tous des porte-drapeaux de l'étendard de l'islam, des modèles d'humanisme, d'humanité et des modèles d'islam. Et que ce soit une relation de muhabba également entre les deux familles et entre toutes les communautés. Allahumma amin. Et un petit appel du cœur. Vous savez, on est dans le quartier de Sainte-Clotilde. Ça, c'est le quartier de tout le monde, ça. Alhamdulillah, on a une madrasa avec Fundi Hamzé qui nous regarde du haut de ses 1m80. Et cette madrasa, elle accueille 200, 250 élèves. Alhamdulillah, jour après jour, il y a de plus en plus d'inscriptions. Nous, on n'est pas là, on est à 10 minutes au Moufia. Nous, on est limité à 80. Plus que ça, on ne peut pas, on a deux salles de classe. On ne peut pas gérer plus de 40 élèves par classe. Ici, alhamdulillah, l'enseignement se fait dans des conditions difficiles. Ce qui fait qu'il y a encore plus de mérite pour leur travail. Ils enseignent dans la masjid, dans des salles, ils n'ont pas de climatiseur. Vous voyez le ventilateur, ça fait un peu pitié. Si Allah a mis un peu de générosité dans le code, quelqu'un fait le niyat qui veut donner quelque chose, Allahu Akbar, alhamdulillah. Ce qu'on a besoin, c'est de vos doigts et de votre investissement spirituel, soutien psychologique et financier. Le dernier mot, on a dit plus 20, mais ça rend dans les cœurs financiers. Alhamdulillah, la gestion des mosquées, l'association Islam Sunnah Jama de Saint-Denis, fait l'acquisition d'un bâtiment qui est juste en face, le magasin de chaussures là-bas, et ce bâtiment, Inch'Allah, va accueillir bientôt les élèves. Vous pensez que 300 élèves peuvent entrer dans une masjid, un petit bâtiment comme ça? Il faut qu'on les accueille dans de bonnes conditions pour que ces enfants apprennent le dîn correctement. Pourquoi est-ce qu'à l'école ils s'assoient bien et ici ils sont exigus, ils sont coincés? Il faut de bonnes conditions pour apprendre. Donc Inch'Allah, on a fait l'acquisition de ce terrain. Ce terrain qui coûte 200 000, le bâtiment 200 000 euros, 250 000, et il y a pour 100 000 euros de travaux. Ça fait combien? Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait 350 000 euros. Alhamdulillah, les gens de Saint-Denis, Centre-Ville, du Moufia, l'Altanier, de Saint-Clotilde, tout le monde met la main au cœur et la main à la poche pour essayer d'aider ça. Ce que vous donnez là, c'est des récompenses jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui apprend de cet endroit. Donc dans ce mois béni de Ramadan, le prophète m'a dit, le meilleur de sadaqa, c'est le sadaqa qu'on donne au mois de Ramadan. Si Allah met la générosité de notre cœur, nous accepte qu'on fasse un geste, qu'on aide, même si on vient de Saint-Pierre, de Saint-André, de Saint-Louis. Mais ça, c'est la Ummah islamique, ça, ce sont nos enfants qu'on a besoin de les donner, de leur donner de bonnes conditions pour apprendre, que chacun essaie de voir ce qu'il peut faire pour aider ce petit quartier, pour que nos enfants, Inch'Allah, peuvent apprendre de meilleures conditions. On a des responsables qui sont là, hein, dans le centre-ville Saint-Denis, à Saint-Clotilde aussi. Vous pouvez les contacter si quelqu'un veut faire un geste. On va laisser le reste du programme à Moana, Inch'Allah, qui symboliquement va officier le nikah de son élève. Jazakum Allah khair, wa ma tawfiqi illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.